Donc l'exploitation aujourd'hui, on a autour de 64 hectares. On a à peu près 8 hectares et 2 ans. On a autour de 50-55 vaches laitières, 390 000 de quotas qu'on produit pas complètement. Donc depuis un an et demi maintenant, on est passé en conversion en bio parce que le système nous convenait plus. Dans le système où on veut nous emmener. Donc voilà. On produit essentiellement, donc on fait 6 hectares de maïs en silage, 8 hectares de céréales, dont 2 hectares pour le pain. Le reste, c'est pour l'autoconsommation des vaches. Et après le reste, il y a une grosse partie qui est en prairie temporaire, donc on fait beaucoup de luzerne. Et puis après le reste, c'est en prairie naturelle, quoi. Avec quelques parcours. Nos génisses sont en estive durant l'été. Une estive collective aussi. Donc c'est les paysans qui gère l'estive, on n'a pas de berger, mais on va les visiter deux fois par semaine, à tour de rôle. Depuis janvier 2012, on est 3,5 à travailler sur l'exploitation. Donc moi, Sylviane, j'ai mon frère qu'on est en grec à 3, et depuis le 1er janvier, donc on a notre fils qui est là à mi-temps, qui a un travail extérieur à mi-temps, et qui est à mi-temps ici en tant que cadre familial. On est 3,5 à travailler sur l'exploitation. Ben, moi, j'ai fait l'école d'agriculture, hein. On a appris l'agriculture comme ça s'apprenait à l'époque, dans les années 80. Donc j'ai passé un BEP que j'ai raté en plus. Donc après, je suis reparti, j'ai fait une formation de vacher porcher. Donc j'ai une maîtrise en élevage. Donc après, je suis resté aide familiale pendant 5 ans, en gros. Sur la ferme, je travaillais avec mes parents. Et bon, je faisais des petits boulots un peu à côté. J'étais chauffeur d'accumage, j'ai fait chauffeur du laitier. Mais que du remplacement, quoi. Donc voilà, je travaillais avec mes parents. Et puis bon, quand mes parents sont arrivés à la retraite, et ben moi j'ai repris l'exploitation.
Donc voilà, moi je suis arrivée à la suite avec Raymond. En fait, je l'ai suivi dans sa démarche de paysan. Donc quand je suis arrivée là, et ben, ses parents ont fait le choix de nous laisser la ferme. Donc ils ont acheté une autre maison. Donc ça a été très bien pour tout le monde parce qu'ils ont coupé, ils ont pu profiter de leur retraite. Et nous, si à la fois on avait besoin, ils étaient aussi là, mais c'était notre installation, quoi. Alors le parcours d'installation, c'est plutôt Ramon qui l'a fait. Moi, j'étais plutôt là en tant que conjointe. Mon parcours, en fait, j'avais un CAP d'employé de collectivité. Avant qu'on se mette ici à la ferme, j'étais nounou. Donc c'était parce que je n'avais pas trouvé de travail dans la collectivité. Et après, c'est vrai que j'ai suivi le parcours d'installation de Ramon. J'étais déjà de souche paysanne aussi. Donc ça m'a assez plu, quoi, en fait. Ça m'a assez plu. Donc j'ai participé aux travaux. S'il y avait une tournée de lait qui était faite en lait cru sur la ville de Saint-Chamond. Donc j'ai repris la tournée derrière sa maman. On l'a arrêtée en 90, que j'ai eu des soucis de santé quand j'ai eu mes enfants. Donc obligée de rester au lit 6 mois. Donc voilà, la tournée c'était plus possible. Donc quand pour notre aîné, sa maman est encore venue nous remplacer. Et puis pour Delphine, j'ai dit non, mais stop, ils sont à la retraite, ils ne méritent pas de travailler encore. Et puis on avait des impayés aussi avec les grandes surfaces. Ils nous payaient à 90 jours. Et en plus, à un moment, ils ne nous ont plus payé du tout. Donc on a dit là, stop, on arrête. En 88 ou 89, on a fait un bâtiment parce que du coup, Ramon, il s'est retrouvé plus de 6 mois tout seul à travailler en écurie. Donc c'était soit on arrêtait, soit on faisait le choix de construire un bâtiment plus fonctionnel. Donc on a fait le choix d'investir. On a investi et aujourd'hui, au bout de 20 ans, c'est sans regret, quoi. On a travaillé dans de bonnes conditions. Donc on n'avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a travaillé dans de bonnes conditions. Alors les 3 premières années, on n'est pas parti en vacances. On est parti après parce que bon, il y avait quand même du boulot.
Sur Saint-Paulien-Cumor, bon, moi je me suis vite investi dans la Cumor parce que c'est un outil indispensable à l'agriculture, hein, pour moi. Cumor, c'est une coopérative d'utilisation de matériel en commun. On achète, donc en fait on prend des parts du matériel. Chaque adhérent qui a besoin d'un matériel, eh bien, il prend des parts sur un matériel et après il paye suivant l'utilisation qu'il en fait, quoi. Donc ça permet ça permet aux agriculteurs surtout de ne pas à investir tout seul dans du matériel qui coûte très très très, très cher. Et du coup l'amortir beaucoup, beaucoup plus facilement, quoi. Voilà, pour moi, là, si aujourd'hui on supprimait la Cumor par exemple sur Saint-Paul, il y a la moitié des paysans qui pourraient plus vivre du tout, quoi. De toute façon, c'est sûr, hein. Et tous les autres, ils vivent au trait, quoi. Le matériel, c'est un... À la Cumoir, on cherche à... Comme on note tout, on va chercher le coût de production du matériel. Et alors, quand on est tout seul, eh ben, on ne cherche pas forcément le coût de production. Et on travaille surtout avec du matériel toujours renouvelé, de pointe, on va dire, assez récent. Parce que comme le matériel tourne, il s'est amorti. Donc, quand il s'amortit, eh ben, on renouvelle. Donc, après, la Cumoir, ben, c'est un bon outil pour travailler entre les paysans, on travaille ensemble. Donc, après, c'est une association. Hein. C'est quand on travaille à plusieurs, il y a du collectif. Donc, il y a des concessions, il y a des règlements intérieurs à essayer de faire tenir parce que c'est pour le bon fonctionnement, quoi, voilà, quoi, c'est tout.
Et c'est du matériel que s'il n'y avait pas la CUMA, il faudrait demander des prestations auprès d'entrepreneurs.
Voilà, alors soit les entrepreneurs, soit on achèterait du matériel qu'on ferait vieillir plus longtemps mais qui serait souvent obsolète.
Oui, puis qui serait pas utilisé, qui serait sous-utilisé.
Qui serait sous-utilisé, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on a tout le matériel, donc aussi bien fenaison, travail du sol, semis, récolte. Maintenant, on a aux alentours de 35 matériels à la Cumoir. Et on a en gros une dizaine d'exploitations, qui font tourner vraiment la Cumoir, qui sert vraiment. Après, il y a des à côté ou des gens qui ont que quelques matériels, mais on a en gros une dizaine d'exploitations. Quoi.
En 97, il y a eu la naissance de Quentin, et là, on a pris la décision de monter un troupeau de chèvres de 30 chèvres à peu près, qu'on livrait à Guillotot. On aurait pu faire le choix de transformer, qu'on avait le lait de vache et le lait de chèvre, mais les investissements auraient été trop lourds, et donc on a préféré traire pour Guillotot. Après, en 2002, il y avait une ferme qui se libérait pas loin de chez nous. Donc, son petit frère Ramon avait envie de s'installer. Donc, du coup, la décision, il a fallu vite la prendre, parce qu'on reprenait derrière un gars qui était en difficulté. Donc, on l'a pris. On a fait le choix de faire un GAEC, donc qui marche encore. Il a fallu qu'on fasse un autre bâtiment parce que du coup il reprenait une ferme qui était égale voire supérieure à la nôtre qu'on avait déjà à deux. Donc les bâtiments ne suffisaient plus. Donc il a fallu refaire les mises aux normes, tout ça. Donc on a refait le choix de faire un bâtiment. Et à ce moment-là, on a arrêté la production de chèvres en fait. D'accord. Et c'est à ce moment-là que les AMAP se sont mis en place. Donc on a suivi le début du parcours des AMAP. Et nous, on faisait déjà le pain pour nous en privé, parce que quand on avait arrêté la tournée de lait, ça nous cassait la tête quand même de descendre exprès chez le boulanger acheter le pain, quoi. Donc du coup, on a fait le choix de faire notre pain pour nous. Et du coup, de fil en aiguille, eh ben, on est arrivé aux AMAP en même temps qu'elles se sont mises en place, quoi. Et aujourd'hui, pourquoi le choix en AMAP? Parce qu'en fait, on n'a pas d'invendu, c'est pas de perte. Donc, pas d'emballage, et économiquement, ben, c'est quand même intéressant de ne pas avoir de perte, quoi. Donc, du coup, il est certes un petit peu moins cher, mais du coup, tout le monde s'y retrouve, et on va dire qu'au niveau revenu, c'est un bon complément pour l'exploitation. On a reconstruit un four, hein, parce que chez nous, le four n'y était pas.
D'accord, et vous aviez déjà un moulin
Alors le moulin, après, en fait, le souci, c'est qu'en AMAP, on ne doit pas acheter sa farine à l'extérieur. Il y a quand même une charte à respecter. Donc à un moment donné, il a fallu commander un moulin. Plus gros investissement, il est vrai que c'est le moulin, mais c'est largement rentabilisé, quoi. Enfin, ça vaut le coup, quoi. Et après, c'est vrai que de faire le pain pour l'AMAP, comme on est quand même trois à travailler, j'ai peut-être plus valorisé ma place, quoi. Parce qu'on a beau se dire, une femme, on peut tout faire, mais au niveau force, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, quoi. Et puis le milieu est quand même un peu dur, quoi. On ne verra pas beaucoup de femmes par chez nous qui conduisent le tracteur, quoi. Le milieu est assez macho, quand même, on va dire. Et en fabriquant, c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé ma place, quoi. D'accord. Peut-être plus ma place, quoi. J'ai l'impression d'avoir plus mon truc à moi, parce qu'au départ, c'était quand même l'installation de Ramon, quoi. dans le parcours installation, on ne parle pas des bras qui travaillent sur l'exploitation. On parle de celui qui s'installe. Alors qu'on se rend compte que pas mal d'exploitations, il y a plein de petits bras qui gravitent autour de ça, quoi. Et qui n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur, quoi. Mais voilà, quoi. Après, en statut, c'est vrai que jusqu'en 2002, j'étais que conjointe. Donc, en statut, niveau retraite, eh ben, c'est peut-être pas le top par rapport à si j'avais été exploitante. Mmh. Aujourd'hui, je suis exploitante à part entière du moment qu'on a fait le GAEC, quoi.
D'accord.
Voilà, après, mais je pense qu'une femme a fortement sa place sur l'exploitation. Parce que autant au niveau administratif, et puis voilà, un choix de vie aussi, parce que un choix de vie, bon, il est vrai que il y a des choses peut-être que je fais pas, mais à l'inverse, il y a des choses que les garçons ne font pas aussi. Donc ça s'équilibre, quoi, on va dire. On va dire que ça s'équilibre. Enfin, moi, je pense que ça s'équilibre, quoi.
Et du coup, alors, le pain s'est vendu donc dans des AMAP. Et donc le lait, là, maintenant, ça a évolué quand même, la distribution du lait.
Alors le lait, donc nous, le lait part tout en laiterie. Donc pour le moment, on livre à Danone. Quand on a commencé la conversion, donc on a fait venir Danone, on a fait venir Biolay. Parce que nous, ça nous intéressait de parler avec Biolay. Et puis du coup, on a pris la décision que dans 2 ans, enfin à la fin de la conversion, on partirait à Biolay. Parce qu'on a trouvé que Danone avait une optique de bio, mais juste pour l'image. Voilà, d'accord. Ils veulent développer le lait bio, mais juste pour leur image de marque, quoi. C'est
ce qu'on a ressenti.
Biolay, c'est encore un peu les paysans qui gèrent, c'est les paysans qui gèrent et puis qui prennent les décisions surtout. Si on n'est pas d'accord, s'il y a quelque chose, on peut s'exprimer. Tandis que à Danone, eh ben, le prix, c'est le prix du marché, et point barre, quoi. Moi, j'expliquais l'autre jour, vous faites une réunion avec Danone, une assemblée générale, vous allez à Danone, vous revenez, vous êtes complètement démoralisé, vous savez même plus s'il faut faire du lait parce qu'il n'y a rien de motivant, il n'y a aucune décision. Les décisions sont prises, on n'est jamais concerné, quoi. Alors que vous allez à une réunion Biolay, et ben vous revenez, vous êtes motivé, vous avez envie de faire quelque chose, quoi, de faire avancer les choses. Pas forcément toujours produire plus pour plus. Mais produire peut-être moins pour gagner un prix correct, quoi. Et c'est les paysans qui décident, quoi. Alors après, c'est le collectif, bien sûr, hein. Si vous êtes à l'opposé, vous pouvez pas... C'est un collectif, hein, aussi, mais... Mais voilà, quoi. Quand vous revenez d'une réunion de Biolay, ben, vous êtes motivé. Alors quand vous revenez de Danone, eh ben, vous avez le moral dans les chaussettes, quoi. C'est aussi ça. Hein.
Et il est vrai que quand Jean-Christophe est revenu à mi-temps... ça a été la question pour certains. Qu'est-ce que vous allez produire en plus? Eh ben rien. C'est vrai qu'on a voulu gagner, certes, sur une qualité de vie. On a fait un choix. Donc on s'est dit, oui, on le prend à mi-temps parce qu'on peut le payer à mi-temps. Donc c'est vrai qu'aide familiale, c'est peut-être pas un super statut. Je pense que dès cet automne, on va travailler sur son statut à lui. Comment gérer ce statut, parce qu'être familial, c'est un petit peu dévalorisant. Donc on se dit faut qu'il ait un statut qui soit valorisé, mais voilà, on lui sort son salaire à mi-temps et sans problème,
sans avoir augmenté la production
on a baissé un petit peu nos salaires à nous.
On était en conversion, donc on était un petit peu juste.
Trésorerie, on ne voulait pas être trop juste.
On ne voulait pas se mettre trop juste d'un coup, donc on a dit on se baisse un petit peu et puis on verra dans un an ou deux si on se les remet, suivant comment que ça tourne, quoi, quand on sera en bio. On est passé en bio, alors pourquoi on est passé en bio en fait ? C'est tout simplement après la crise du lait. Hein. La crise du lait 2009, on a fait la grève, on a fait beaucoup de choses, on a manifesté énormément de fois.
50 jours dehors.
On est sorti 50 jours, je crois, la même année. Et après la grève du lait, ben la réflexion qui s'est faite, ben voilà, on s'est dit le prix du lait a remonté, mais de toute façon, on va droit dans le mur, parce que dans quelques temps, la crise du lait va revenir. Et on commence à en voir revenir les prémices, quoi. Pour 2013, hein, fin 2012-2013, on voit très bien. Alors, ils sont beaucoup plus malins que nous, ceux qui nous achètent le lait. Ils anticipent les choses. ils feront pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait en 2009. Quoi. Ils vont baisser le lait tout doucement pour pas qu'il y ait une grosse baisse à la fois, plutôt que de donner un grand coup comme ils avaient fait en 2009 pour que ça choque les gens. Ils vont anticiper les choses, quoi. Donc on a mis quelques temps quand même pour se décider, hein. Mais c'est pour ça qu'on est parti en bio, parce qu'il nous semblait, bon, déjà le marché du bio était porteur à l'époque, même s'il l'est encore aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de gens qui sont quand même passés aussi. Donc on a dit, bah, nous c'est l'occasion, on y va, parce qu'on ne veut plus marcher dans ce système-là.
Il y avait tout un parcours aussi, on en est venu à vouloir produire du lait bio. Bon, déjà on faisait nos semences, il y a aussi un côté économique quand même. Parce que par rapport à nos semences, quand on s'est mis à faire nos semences, on voulait gagner de l'autonomie, quoi. Donc, et puis on était sûr de ce qu'on avait, quoi. Que acheter, quand les OGM sont arrivés, c'était le souci. Acheter du soja à plein bal, ça ne nous intéresse pas de faire mourir les pays du Sud. Je veux dire, on peut certes valoriser ce qu'on a chez nous déjà. Et donc faire nos semences, ça a été un intérêt déjà pour la fabrication du pain et puis pour voir qu'il y avait des variétés chez nous qui étaient utilisées avant, qui sont largement utilisables, et faire nos semences, ça a quand même une économie. Je vois pour le maïs, ça nous coûte à peu près entre 20 et 30 euros la dose de se la produire, que d'aller l'acheter en bio, ça nous coûte 150 euros. Donc on a vite fait le calcul. Le calcul, il est vite fait, quoi. Donc l'autonomie, faut l'avoir, hein. Et il faut la chercher, quoi. Il faut la cultiver, quoi. C'est comme tout, quoi. C'est vrai que c'est plus simple d'aller acheter son sac, le mettre dans le semoir, que là, avant, il y a du travail un petit peu. Mais le travail est largement rentabilisé, quoi.
Quand on voyait aussi le prix du soja, nous, on a eu longtemps qu'on a arrêté de donner du soja. Bon, on donnait du colza à la place. Mais bon, maintenant, on n'a plus envie de donner tout ça parce que souvent ça vient des pays pauvres en plus, ça vient du Brésil ou de l'Argentine.
Et d'avoir arrêté le soja, on n'a pas baissé spectaculairement la production.
Non.
Et je pense que l'état de nos vaches s'en porte tout aussi bien.
Voilà, hein. Ouais, donc,
voilà, et puis il faut avoir des fois envie de changer et pas avoir peur de changer, quoi. Parce que je veux dire, si c'est pour acheter du soja et faire mourir nos pays du Sud, je vois pas l'intérêt, quoi. Et l'autonomie, eh ben, c'est toujours gagnant, quoi, parce que c'est ce qui sera en plus dans notre porte-monnaie, quoi. Et c'est vrai que faire ces céréales, faire ces semences, hein, de céréales ou de maïs, hein, c'est pas aussi compliqué qu'on le croit, hein. On a des choses à réapprendre, en fait. Mais voilà, c'est tout un savoir-faire qu'il faut peut-être se réapprendre et l'utiliser. Et c'est vrai que le coût des semences, c'est quand même sacrément économique, quoi. En autonomie, il n'y a pas photo, quoi.
Alors c'est le vrai problème aujourd'hui. On garde même un taureau, on se pose beaucoup de questions, parce que même les semences animales, parce que souvent on parle des semences, c'est souvent le végétal, mais la semence animale, c'est pareil, quoi. Aujourd'hui, il y a la génomie, on nous vend des packs de taureaux, on ne sait même pas. Et en plus, c'est horriblement cher, quoi. C'est ça le pire.
Oui, pour après des animaux qui produisent, mais qui sont peut-être pas forcément dans une santé.
Qui pour nous nous intéresse pas, quoi. Enfin, ce système, le programme de sélection qu'ils ont, on voudrait travailler plus sur la longévité, sur la résistance des animaux, plutôt que toujours travailler sur la production, quoi. Mais on sait très bien que pour sortir une variété, il faut toujours qu'elle soit supérieure aux autres, donc forcément, il faut que la production elle augmente. Forcément, au bout d'un moment, on augmente. Plus la production, on augmente la production, mais on diminue les. Ou alors il faut plus traiter, Voilà, donc c'est plus sur la rusticité qu'on va rechercher que. Et puis gagner de l'autonomie aussi, même sur les semences, quoi. Enfin, sur les semences animales, quoi, parce que. Donc on a encore du travail à faire, quoi, c'est sûr.
Du travail et puis de la formation aussi, parce que, voilà. On a fait ce choix de réélever un taureau, mais c'est vrai que bon, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein, voilà, qu'on ait le choix, nous, et non pas qu'on nous impose des choix.
Voilà, nous, ce qu'on décide maintenant, c'est qu'on veut que ce soit nous qui décidions quand on va faire quelque chose, Et on l'assume jusqu'au bout, quoi, parce que...
On a déjà suffisamment de contraintes par rapport climatiquement à notre métier. Il faut rendre une comptabilité, il faut rendre plein de choses, quoi. Il faut rendre la PAC, même en revenant sur la PAC. Hein. Je veux dire, la PAC serait à l'unité de travail, ça poserait beaucoup moins de problèmes sur le foncier et les gens seraient beaucoup moins sensés à vouloir s'agrandir, et même pas le cultiver correctement, parce que ça a beau se moderniser, le matériel, il a beau être au top aujourd'hui. Je veux dire, mais on n'a pas quatre bras, quoi. Je veux dire, nous, on s'est installé en 87. On était deux à travailler avec 140 000 de quota, quoi. Aujourd'hui, on a 390 000. On pourrait, je pense, si on était payé correctement, on pourrait largement être 4, voire 5. Mais voilà. Et après, les gens, ils sont surbookés, ils pètent les plombs. Alors, on parle beaucoup du suicide à France Télécom et compagnie, hein, mais en agriculture, c'est énorme. Et ça, ça se dit pas, c'est tabou. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment, on a un beau métier et faut qu'il soit valorisé à sa juste valeur, quoi. Parce qu'on a un beau métier. Pour une maman, pouvoir élever ses enfants à la maison, c'est super, pas avoir de nounou. Alors, c'est sûr, il n'y a peut-être pas toujours eu l'argent en face, mais la qualité de vie... il faut se l'offrir, quoi.
Et puis du coup, sur le travail lui-même, peut-être justement cette recherche d'autonomie, de ces savoir-faire-là, que c'est aussi de la satisfaction, enfin, ça apporte quelque chose peut-être aussi
dans le travail.
Et puis des rencontres aussi avec d'autres gens, d'ailleurs, du coup, d'une autre région. Et c'est super enrichissant parce qu'on apprend certes beaucoup en formation, mais on apprend beaucoup aussi en échange, quoi. Et c'est vrai que les échanges sur les céréales, j'échange les différentes variétés, puis qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, qu'est-ce qui se fait chez les autres. Là, il y a eu un échange en Ardèche, là, au mois de juin, là. Et bien, c'était super motivant, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui travaillent en petite dimension et qui sortent un revenu quand même, quoi. Et puis, eux peuvent le faire, pourquoi on ne peut pas l'adapter chez nous, quoi. Et c'est essayer aussi, par curiosité aussi. Et c'est super enrichissant, quoi.
Moi, j'ai 50 ans et en fait, je suis sorti de l'école en 80, on était en plein boom où il fallait mettre de l'engrais. Bon, on a fait ça, on a fait ce qu'on nous a appris à l'école, mais on a vite déchanté derrière parce qu'on n'a pas souvent pas des terrains adéquats derrière. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est pris dans un système où on n'a même plus le droit de décider, on n'est plus que là pour travailler, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut changer, quoi.
Après, il est vrai que la vente directe aussi prend beaucoup de temps, mais après, il faut savoir limiter sa production par rapport aux bras qu'il y a sur l'exploitation, quoi. Oui. Et prendre du temps pour les vacances, c'est primordial. Nous, on arrête les AMAP, alors ça peut peut-être en faire bondir quelques-uns, mais après, c'est un choix qu'on a fait. On arrête les AMAP la semaine du 14 juillet et on reprend fin août. Parce que bon, faire du pain... avec des fortes chaleurs au levain et le four, on travaille dans le fournil, il y a plus de 40 degrés, quoi. Et puis, je veux dire, il faut aussi vivre, quoi. On n'a qu'une vie. Celle d'après, on ne sait pas ce qu'elle sera. Donc, vivons la première pleinement, quoi. Et on revient en fin août, hein, et ben les gens sont contents de nous retrouver, quoi, en fait. Ils apprécient, quoi. Ils ont galéré un petit peu l'été pour trouver un peu de pain, parce qu'il y a un boulanger là fermé, ça pas lequel sera ouvert... Mais bon, du coup, ils apprécient de nous retrouver. Et nous, à la fois, on apprécie de se relancer dans la fabrication. On s'est reposé, on a fait autre chose l'été. Et c'est pas plus mal, quoi. On repart de meilleurs pieds, je pense. C'est vrai que ça prend du temps, hein. Je vois, quand les enfants étaient petits, je me suis beaucoup occupée de l'école, du comité des fêtes. Après, je me suis occupée aussi du service de remplacement. Mais il faut que les rôles tournent, en fait. Il faut pas prendre une responsabilité à vie. Parce que du coup, c'est la routine qui s'installe et il n'y a pas d'évolution, quoi. Donc il faut savoir prendre les choses, mais il faut aussi savoir les laisser, quoi. Bon, après, vraiment, on a pris d'autres responsabilités aussi. Je veux dire, il faut aussi se partager, quoi. Mais il faut quand même s'occuper de ce qui se passe autour de nous, quoi, pour évoluer, quoi.